Il y a de ces rendez-vous annuels. C'est le cas ce matin avec notre invité qui va organiser. C'est la 29e édition, le fameux show du refuge avec ses amis artistes. Dan Bigrette avec nous. Bonjour, Dan.
Salut, Paul.
Comment vas-tu?
Moi, je vais très, très bien. En pleine forme.
Là, tu te prépares. Bon, ben ça, c'est déjà ça de prix.
Je vais te dire à ma face un jour, mais je suis de bonne humeur.
Parle-moi du show de cette année. Qu'est-ce qui est prévu?
On est en train de le gosser. On est là-dessus. C'est parce que le principe, c'est que j'écris un show que les artistes viennent de fucker. C'est ça qui est trippant. C'est ça qui est le fun. Non, mais c'est ça. Il y a toujours des idées dernière minute. Puis ça crée tout le temps des affaires. Ça me tape ses nerfs d'avoir à réécrire les partitions puis tout ça, mais j'adore ça. C'est comme ça qu'il se crée une espèce de gang ensemble. Puis là, on est dedans. Là, on est en train de gérer toutes les dernières demandes puis les bebelles. Puis je trouve que ça se passe bien. C'est bien le fun.
Mais là, t'en as vraiment pour tous les goûts. T'as Marie-Mé, Bruno Pelletier-Corias, Laurent Paquin. Donc, mélange musique, humour, performance, tout horizon.
Oui, mais c'était pas dans le but de faire quelque chose tout horizon. Moi, je cherche des complicités. C'est ça que je faisais quand je jouais dans un bar il y a longtemps. Tu sais, moi, j'étais un musicien de blues. Quand tu connais 30 tonnes de blues, tu peux jouer avec n'importe qui, n'importe quand. Et puis, j'organisais du blues avec n'importe qui, n'importe quand. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait le premier show du refuge. Puis, ça reste encore 29 ans après. Je cherche des complicités, du monde avec qui je vais avoir du fun. Et puis, that's it. C'est aussi simple que ça.
L'autre chose qu'il faut souligner, puis je pense qu'il faut vraiment, avec le crayon gras, c'est que les sommes amassées, ça correspond à quoi? Le quart à peu près du budget annuel du refuge?
Entre le quart puis le tiers, mais il y a beaucoup de dons aussi qui sont arrivés à cause du show. Ça, je le dois beaucoup à mon ami Guy Latraverse, qui est venu voir le deuxième show du refuge, que j'organisais sans télévision. Et puis là, il m'a dit, hey, je pourrais te vendre ça à Radio-Canada. Puis j'ai dit, c'est quoi l'avantage? Ben, il dit, de un, ils vont payer tes dépenses, fait que tu vas garder toute ta porte. Puis de deux, ça va te permettre d'en parler publiquement puis de faire avancer les affaires. Moi, je trouve ça pas mal prophétique, je l'ai trouvé extraordinaire. Fait que ça a permis de donner une visibilité, qu'on n'avait pas au départ. Avec le temps, année après année après année. La première année, on a ramassé 6 000 $, je me pensais milliardaire. Puis les trois dernières années, on a ramassé 500 000 $. Mais avec toujours la même façon de faire. Il y a plus d'éclairage, il y a plus de son, la salle est plus grosse, mais c'est le même show, c'est le même principe. Puis c'est surtout la même façon d'en parler tout le temps. Fait que ça aussi, ça augmente pas juste le montant d'argent. Le fait qu'on puisse en parler publiquement augmente aussi, puis je vois des regards changer sur les jeunes de rue. Il y a encore des problèmes, là, mais je vois le regard des gens tranquillement changer. Tu te rappelles-tu les premières émissions où je venais te voir, puis il n'y avait pas Internet dans ce temps-là, puis les gens appelaient, puis ils disaient, ouais, on faut fouetter, les mettre en prison. Je me disais, ouais, on n'a pas commis de crime, c'est quoi? Puis là, tranquillement, je me rappelle encore une de tes émissions, ton réalisateur est venu me voir, il dit, ben là, on a des appels, c'est 50% pour, 50% contre. Puis moi, j'étais furieux. Comment est-ce qu'on peut être 50% contre des gens qui ont rien fait, qui sont dans la misère? Et puis, ton réalisateur a dit, non, tu comprends pas ça, toi, 50%, n'importe qui vient parler de quelque chose, il y a 50% ici, c'est un gros hit. Fait que je me dis, bon, ben, il y a peut-être quelque chose qui bouge. Puis effectivement, maintenant, je pense que c'est 90% des gens qui comprennent.
J'allais dire, on parle de plus en plus, tu sais, des problèmes de santé mentale, puis de plus en plus chez des jeunes, par exemple. Ce soit des troubles comme l'anxiété qui va, ce qui peut amener évidemment à développer d'autres problèmes, des problèmes de dépendance. Et régulièrement, on nous présente quand même ces situations difficiles. Moi, je pense que les gens comprennent que quelqu'un qu'on voit dans la rue, qui est un jeune de 18 ans, 19 ans, qui est un sans-abri, il y a une histoire derrière, là. Et cette histoire-là l'a amené dans la rue, puis peut-être, et on le souhaite, va un jour en sortir. Mais on n'est pas dans le jugement facile en disant que c'est un paresseux, puis s'il se drogue, c'est de sa faute.
Beaucoup moins. Il y en a encore une couple. T'sais, moi, je suis pas là pour engueuler personne. Je fais ce que je peux pour informer, mais tu as raison. À un moment donné, c'est que si le refuge est content de soigner en aval, c'est correct, il fait sa job, il est heureux de le faire, mais on aimerait ça qu'en amont, on arrête de fabriquer des enfants foutus. Alors, c'est évident qu'à 35 par classe avec un ergothérapeute puis un psychologue par 4 écoles, ça fait pas un job. C'est clair que ça fait pas un job.
C'est sûr.
Je veux dire, c'est Tu sais, ça s'est fait, les coupures sont faites petit à petit, de temps en temps de grosses, tout le monde a chialé. Après ça, des petites, ils n'ont rien dit. Mais je comprends pas pourquoi il y a des budgets qui augmentent, puis les budgets les plus importants, eux autres, descendent. On paye de moins en moins les profs, ils ont de plus en plus de charges. Quand M. Legault dit, on va rappeler les profs à la retraite pour les maternelles qui ont 4 ans, moi, je suis sûr qu'il n'y en a pas un maudit qui va vouloir revenir, ils sont fucking traumatisés. Et puis, on avait tous raison là-dessus. Il n'y a pas de prof qui a voulu revenir faire les maternelles 4 ans. Il y en a eu assez de travailler comme ça. On appelle ça l'angoisse de compassion. J'ai vu ça à Louis H. J'étais dans une petite conférence là-bas. Puis, ils ont un psychiatre qui s'est suicidé à un moment donné parce qu'il n'arrivait plus à aider ses patients comme il faut. Ben, quand tu vois des enfants qui souffrent devant toi puis que t'as pas le temps de t'en occuper parce qu'il faut que tu t'occupes de ta classe, ça te crée un traumatisme. Puis pour une paye minimum en plus, fait qu'à un moment donné, c'est certain qu'ils veulent pas revenir, je reviendrai pas non plus.
En terminant, puis je profite de ta présence pour te poser 2-3 questions sur ton expérience comme animateur à la radio. On n'a pas eu l'occasion de s'en reparler. Comment tu as trouvé ça?
J'ai eu la piqûre.
Ah, c'est vrai?
Oui, j'ai eu la piqûre, j'adore ça. Je reviens à Noël, puis l'été prochain. Je pense qu'on va appeler mon émission « Les vacances de Bernard ». C'est pas mal ça que je fais. Je sors Bernard avec grand plaisir. Et je me rappelle, tu me demandais que j'allais faire. Je vais essayer de me faire répondre quand je pose une question au politicien. Oui. Toi, tu m'avais fait un sourire. Tu m'as dit « Ouais, tu nous avertiras si tu trouves la recette ». C'est pas si simple, si.
Merci, Dan, d'avoir été là ce matin.
Merci à toi.
Salut, Paul. Dan Bigrand.
Salut, passez quoi.
9h06.